Merci beaucoup Jean-Claude. Si on pouvait allumer la lumière ici, ce serait bien. Que la lumière soit et la lumière fut. Quel verset, quelle parole merveilleuse dans le livre de la Genèse, qui nous parle de ce Dieu créateur qui maîtrise toutes choses. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons beaucoup de joie d'être ensemble dans la maison du Seigneur pour louer son nom, pour adorer sa personne et écouter sa parole. J'aimerais lire avec vous deux versets dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 26, les versets 57 et 58. Matthieu chapitre 26, 57 à 58. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient rassemblés. Pierre le suivait de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Un petit texte très court, mais à combien riche d'enseignements. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés, Pierre le suivait de loin. Ce texte souligne deux personnes qui se connaissent bien et qui pourtant vont avoir deux destins différents. Deux destins tragiques parce que Jésus-Christ est sur le point de donner sa vie pour sauver l'humanité perdue à cause du péché. Ce péché qui est entré dans le monde. Pierre lui-même va connaître le triple reniement de son Seigneur. Et ce triple reniement est certainement l'épisode le plus douloureux de sa vie qui va le marquer pendant toute sa vie. Ils vont connaître deux destins dramatiques qu'ils ont choisis volontairement. Christ sait pourquoi il se trouve là. Notre Seigneur Jésus-Christ sait exactement pourquoi il se trouve là. Parce que c'est dans un esprit d'obéissance totale à la volonté de son Père qu'il a choisi librement de suivre le chemin de la croix, le chemin de la mort. Et l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 2 verset 8 qu'il a connu la mort, même la mort de la croix. Donc Jésus-Christ a choisi d'être là, volontairement. Alors que Pierre est là par lâcheté, par manque d'amour pour son Seigneur. Ils vont connaître aussi deux destins terribles qui seront liés l'une à l'autre. Parce que la destinée du Christ va révolutionner celle de Pierre, qui par la suite, lorsqu'il comprendra pourquoi Christ a dû choisir cette mort terrible, changera sa vie. Si Christ n'avait pas choisi le chemin de l'obéissance et accepté de mourir pour chacun d'entre nous, Pierre aurait toujours été un lâche, un déserteur, un homme qui ne serait pas fiable, un homme sur qui Christ n'aurait jamais pu compter. Mais la mort et la résurrection du Christ vont tout bouleverser. Christ va transformer la vie de ce lâche en un excellent et grand apôtre, capable de confondre les foules par son enseignement, sa vie et sa conduite au point de mourir en martyr comme un cadeau de la part de Dieu. Voilà, ça c'est le contexte. Pierre a choisi d'être là comme lâche, mais le Christ a choisi d'être là volontairement pour transformer par la suite la vie des hommes. Amen. Donc ce texte met en lumière deux détails qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi l'apôtre Pierre a dû connaître ce moment si douloureux dans sa vie avec le Seigneur. N'oublions pas qu'avant la transformation intérieure par l'action de l'Esprit, il y a la vie par la chair. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et le Père l'attire par le Saint-Esprit qui travaille les cœurs. Et donc, avant cette transformation par le Saint-Esprit, c'est la vie par la chair. Qu'est-ce qui a amené Pierre à connaître ce reniement? Quels sont les facteurs qui ont poussé Pierre à tomber aussi bas? Le texte nous dit deux détails. J'ai relevé deux détails, mes amis. Pierre le suivait de loin. Pierre était assis avec les serviteurs du souverain sacrificateur. Premier détail, il le suivait de loin. Si nous croyons que le reniement de Pierre a commencé lorsqu'il était confronté à la servante, qu'il a reconnue, si nous croyons que le reniement a commencé là, je crois que nous passons à côté de l'essentiel. Le reniement de Pierre a commencé bien avant. Il a débuté au moment où il a fait le choix de suivre le Christ de loin. Pierre a choisi de suivre le Christ de loin. C'est à ce moment-là, me semble-t-il, que le reniement a commencé dans sa vie. Parce que suivre Christ de loin, c'est commencer à s'écarter de lui. Suivre Christ de loin, c'est commencer à s'écarter de Jésus-Christ. Suivre Christ de loin, c'est choisir le chemin de la désobéissance à sa parole. Je n'ai pas besoin de la Bible pour m'éclairer. Je n'ai pas besoin des lois de Dieu pour diriger ma vie. Je suis ma propre loi. Et je ne crois en rien. Suivre Christ de loin, c'est faire le choix de vivre loin de sa présence. C'est préférer vivre sans faire référence à Dieu, ni faire appel à lui pour sa sagesse, pour nous éclairer dans nos choix. La vie est faite de choix, mes amis. Des petits et des grands choix. La vie est faite de choix. Mais toute la question, c'est comment je fais mes choix? Avec qui? Sur qui je m'appuie pour faire le bon choix? Et s'éloigner du Christ, c'est s'éloigner de celui qui est capable de nous éclairer dans nos choix, de nous donner cette lumière nécessaire pour marcher dans le chemin de la vérité. Suivre le Christ, c'est vouloir se suffire à soi-même. Je peux mener ma vie comme je l'entends. Je fais ce que je veux. Quand je veux, où je veux, avec qui je veux. N'est-ce pas un petit peu ce que nous entendons tous les jours autour de nous, les fruits de ce monde? Croire que faire ce qu'on veut, c'est la liberté. Mais ceux qui parlent ainsi, ceux qui raisonnent ainsi, oublient une chose fondamentale. C'est que ce style de vie est influencé par l'esprit de ce monde et conduit inéluctablement les hommes en enfer. Ils ne savent pas qu'ils sont enchaînés et piégés par le diable, ceux qui raisonnent ainsi. Ils ne savent pas qu'ils sont piégés et enchaînés par le diable. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 2, versets 25 à 26, 2 Timothée 2, 25 à 26, on va lire. Donc c'est un texte qui est dans un premier temps tourné vers vers les serviteurs de Dieu dans leur service pour le Seigneur, mais c'est un texte aussi qui peut s'adresser à tout un chacun. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. L'homme qui veut vivre sans Dieu, l'homme qui choisit de vivre loin de Christ, est enchaîné, est piégé par le diable. Et seul un esprit de repentance accordé par grâce par le Seigneur peut les amener à se dégager des pièges du diable. À se dégager. Parce que la Bible nous dit que la vraie liberté, mes amis, se trouve en Jésus-Christ. Et j'aime beaucoup cette parole qui fait partie des versets que nous devons connaître par cœur. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Et c'est seul en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, que l'homme peut être libéré totalement et définitivement des pièges du diable, du pouvoir du péché, en Jésus-Christ. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Quelle parole merveilleuse, dite par notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours actuelle cette parole. Quiconque vient à Jésus-Christ trouve la liberté. Amen. Alors, pourquoi Pierre suivait-il de loin? La Bible nous dit, pour voir comment cela finirait. Pour voir comment cela finirait. Mais la question que je me suis posée, mais qu'est-ce que Pierre attendait? Qu'est-ce qu'il espérait de la part des ennemis? Qu'est-ce qu'il espérait? Que Jésus fût relâché? Que Jésus se dévoilerait ouvertement et qu'il dirait qu'il est le Messie et que les hommes finiraient enfin par croire? Que Dieu enverrait une légion d'anges et détruirait définitivement ce système religieux et l'autorité romaine pour prouver au monde que Jésus-Christ est le Messie? Que le règne du Christ entrerait en action avec une délivrance surnaturelle de la part de son Père? Si Pierre pensait ainsi, mes amis, Pierre était dans l'erreur. Il n'y avait rien à espérer de la part des ennemis. Non. Croire cela, c'est ne pas comprendre l'œuvre de Dieu. Christ savait exactement pourquoi il était là. Il a fait le choix de donner sa vie. Et comme l'a dit il y a deux dimanches le pasteur Jean-Claude, si nous croyons que Dieu était étonné lorsque Adam a péché, là aussi nous sommes dans l'erreur, mes amis. Dieu n'était pas surpris. Dieu n'était pas étonné lorsque Adam a péché. Dieu n'était pas étonné lorsque Jésus-Christ s'est présenté devant ses bourreaux. Dieu n'était pas étonné. Ça fait partie de son plan, mes amis. Alors, espérer qu'il y aurait une délivrance là, c'est être dans l'erreur. C'est passer à côté du plan éternel de Dieu. Et ce plan éternel, mes amis, c'était que Christ, volontairement, ait choisi de donner sa vie pour chacun d'entre nous, pour que par sa mort, notre vie soit transformée. Pierre a fait preuve de curiosité et non de foi. Il a fait preuve d'une curiosité remplie de doutes. La curiosité de Pierre a manifesté son incrédulité et son scepticisme. Attendre pour voir comment les choses vont se dérouler d'une manière purement humaine. Attendre pour voir. Sans se soumettre à la sagesse infinie de Dieu, à sa souveraineté absolue dans la mission de son Fils. Pierre a fait preuve de doute, d'une curiosité malsaine. Notre problème doit être davantage d'être prêt pour la fin, quelle que soit, que de se demander avec curiosité que sera cette fin. L'événement appartient à Dieu, mais notre choix est de se soumettre à la volonté de Dieu. Notre destinée, mes amis, est entre les mains de Dieu, entre les mains de celui qui contrôle tout, celui qui a tout programmé. Nous avons lu tout à l'heure que Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Au temps marqué, vous voyez, il y a la pendule de Dieu, il y a le timing de Dieu. Dieu n'est pas hors du contrôle des choses. C'est Dieu qui contrôle les choses. y compris la mort volontaire de son fils, y compris ce qui peut nous arriver. Dieu est au contrôle de toutes choses. Mais c'est à nous à lui faire confiance. C'est à nous à entrer dans cette dimension de confiance et de foi dans le déroulement des choses. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons confiance dans sa souveraineté. Dieu n'est pas absent des situations qui peuvent nous paraître difficiles. Dieu n'est pas absent, mes amis. Sachant que tout se déroule selon son plan, y compris les souffrances du temps présent, y compris ses souffrances. Et l'apôtre Paul nous dit que ces souffrances vont contribuer à notre marche vers la gloire. Mais alors, si s'éloigner du Christ, si suivre le Christ de loin, c'est s'éloigner de lui, alors comment cela se manifeste-t-il dans notre vie? Il me semble que lorsque on suit Christ de loin, ça se manifeste par ses sentiments. Nous n'avons plus envie de lire la parole de Dieu. On n'a plus cette envie. La parole de Dieu, la Bible, à la maison, elle commence à avoir de la poussière. Les pages commencent à être trop neuves. Vous savez, on voit une Bible bien utilisée et une Bible bien neuve. À la maison, la Bible doit être usée. Une Bible usée manifeste un désir de rechercher constamment la présence de Dieu, comprendre sa volonté, comprendre sa parole. Mais une Bible trop neuve manifeste un désir de ne plus rechercher la face du Seigneur. Donc, nous n'avons pas toujours envie de parler de lui dans notre entourage. On essaie d'éviter de parler de Jésus-Christ. On essaie d'éviter de parler de sa foi, de ce que nous croyons. On n'a pas toujours cette ferveur d'aller à l'église. On ne cherche pas trop à s'engager dans les activités de l'église locale. On stagne, on devient paresseux, négligent. On n'a pas vraiment ce désir de le servir. On n'a pas ce désir d'aller plus loin avec le Seigneur. Oui, c'est ça. Et suivre Christ de loin. Suivre Christ de loin, on s'éloigne de lui tout doucement. Aussi, ça se manifeste par cette volonté de ne plus toujours être à côté des chrétiens. Voilà. On va négliger la communion fraternelle pour pouvoir privilégier la compagnie des gens de ce monde. On va éviter un peu les chrétiens, on va les éviter. Éviter d'aller à l'église trop souvent. On va éviter. Alors que la Bible nous dit, dans 2 Timothée 2, 22, « Recherchons la compagnie de ceux qui évoquent le Seigneur d'un cœur pur. Hein? » Recherchons la compagnie de ceux qui évoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais lorsqu'on n'a pas ce désir de rechercher cette compagnie-là, mes amis, c'est parce que on suit Christ de loin. Et là, il y a danger, mes amis. Suivre Christ de loin, il y a danger. Mais alors, Pierre suivait Christ de loin. Alors, comment comprendre son état d'esprit à ce moment précis? Et moi, il me semble qu'il est important de faire juste un petit saut en arrière. Lorsque Christ était dans le jardin du Gethsémané, dans ses moments de prière intense, dans ce moment particulier, dur, comment était Pierre? Que faisait-il? La Bible nous dit que alors que Christ était en train d'agonir, Luc 22, 44 parle d'agonir, Christ agonissait dans la prière. Donc ça invoque cette intensité terrible dans la prière du Seigneur Jésus-Christ pour faire la volonté de son Père. Et que faisait Pierre? La Bible nous dit que Pierre dormait. Il était endormi. Et Christ lui dira, qui n'a pas pu veiller une heure avec lui. Bon, voilà le contexte, mes amis. Pierre, il dormait. Son Seigneur luttait à mort pour rester ferme dans la volonté de son Père. Pierre, lui, dormait. Et Jésus va se servir de cette somnolence pour parler à Pierre et lui dire, « Mon ami, fais attention, veille et prie, veille et prie, fais attention. » Parce que la vie n'est pas facile, mes amis. La vie chrétienne n'est pas facile. Celui qui pense une seconde que la vie chrétienne est facile, là aussi, il est mal éclairé. Nous avons cette assurance ferme que nul ne pourra nous ravir de la main de son Père, que Christ est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, il l'a promis. Mais il n'empêche, mes amis, que la vie chrétienne n'est pas facile. C'est pourquoi Christ se sert de ce moment de somnolence de Pierre pour lui dire, mon ami, veille et prie. Pourquoi ? Parce que le diable nous connaît. Il connaît nos faiblesses. J'allais dire l'animal. Il connaît nos faiblesses. Il sait là où nous sommes faibles. Il est subtil. Il ne viendra jamais devant nous d'une manière ouverte. Ce sera trop facile. Mais il vient dans la subtilité, dans les petites paroles. Parce que au jardin d'Éden, il n'a pas dit ouvertement à Ève et à Adam que ce que Dieu a dit est vrai, qu'ils vont mourir. Il a détourné, il a été très subtil. Le diable est subtil, mes amis. Malheur à celui qui n'est pas éclairé. Il connaît notre état de faiblesse, mais c'est à nous à tenir ferme. C'est à nous à faire preuve de fermeté dans notre vie, dans la prière, en restant éveillé. En restant éveillé. Le chrétien est celui qui est éveillé. Parce qu'on ne sommes pas là pour dormir. Lève-toi d'entre les morts, toi qui dors. Le chrétien a la grâce aussi d'avoir, par la parole de Dieu, des armes spirituelles pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous ne sommes pas appelés à dormir. Nous sommes appelés à être éveillés, mes amis, à tenir ferme. Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Ce n'est pas facile, mais c'est l'ordre du Seigneur pour chacun d'entre nous. C'est vrai, parce que Satan s'attaque généralement au point où nous sommes les plus vulnérables et nous ne pouvons pas résister seuls. On ne peut pas résister seul. C'est pourquoi Dieu, dans sa grâce, nous a laissé la prière. Nous a laissé la parole de Dieu, nous a laissé l'Église. Nous a laissé l'Église, c'est-à-dire tous ceux et toutes celles qui un jour ont fait le choix de suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. C'est bien aimé là. Dieu nous les a donnés comme des cadeaux pour nous aider à tenir face contre les ruses du diable, contre l'adversaire. Nous ne sommes pas seuls. La prière, la Bible et aussi les bien-aimés. Pierre suivait Christ de loin. Premier détail. L'autre détail, il est dit qu'il était assis avec les serviteurs. Avec les serviteurs de l'ennemi. Et lorsque j'ai lu ce morceau de verset, tout de suite comme vous, j'ai pensé au psaume premier, hein, qui dit... Heureux l'homme qui ne marche pas nana et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'assit pas. Pierre suivait de loin, mais il était aussi assis en compagnie des moqueurs. En compagnie des serviteurs de l'ennemi. Où était Pierre lorsque Christ subissait la terrible épreuve d'un jugement injuste? Il était assis avec les gardes, les serviteurs et les huissiers, d'après Jean 18, verset 18. Les ennemis du Christ, tous ceux qui se sont opposés à lui, Pierre était assis à côté d'eux. Pierre était assis là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Était-il à sa place ? Est-ce que Pierre était à sa place, mes amis ? Et c'est la question que Dieu nous pose souvent. Es-tu à ta place ? Là où tu es, es-tu à ta place ? Est-ce que là où tu es, tu me glorifies ? Est-ce que là où tu es, au temps présent, je peux être honoré par ta présence ? Pierre était-il à sa place ? Si je suis loin de Christ, je ne suis plus à ma place, mes amis. Je ne peux pas être à ma place lorsque je suis Christ de loin. Je ne peux pas. Non seulement je ne sais plus où je suis, mais je ne sais plus où est ma place lorsque je suis Christ de loin. Je ne suis pas à la place que Dieu a choisie pour moi. Parce que nous avons tous une place. La place de Paul n'est pas celle de Jacques, et la place de Jacques n'est pas celle de Luc. J'aime à dire que dans l'Église, nous sommes tous appelés à servir le même Seigneur, mais chacun selon sa vocation. Chacun selon son arrière-plan. J'aime à dire ça. Ça fait... Depuis 95, je dis cela. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur à servir le même Seigneur, mais chacun dans le respect des vocations des uns et des autres. Là où il y a un problème, c'est lorsqu'on veut prendre la place de l'autre. Dans l'Église, nous avons tous une place. Mais si je suis Christ de loin, mes amis, je ne peux pas être à ma place. Parce que lorsque je recherche la présence de Dieu, Dieu me montre ma place. Dieu me dit là où je dois être. Non seulement je ne sais plus où est ma place, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais je pense celle de l'autre, d'un autre. Suivre Christ de loin, c'est choisir le chemin de la désobéissance à sa parole. Là, je mélange un peu les feuilles. Là. Mais on dit la même chose. Suivre Christ de loin, je ne sais plus où est ma place. Si je suis loin de Christ, automatiquement, je suis proche de ceux qui le rejettent. Automatiquement, mes amis. Je ne peux pas servir de maître, ce n'est pas possible. Si je suis Christ de loin, je suis en compagnie de ceux qui le rejettent. Je ne peux pas aimer suivre le Christ et aimer m'asseoir en compagnie des moqueurs, des railleurs. Si je suis Christ de loin, c'est que automatiquement, mes amis, je suis proche du diable. C'est automatique. Personne ne peut être dans deux endroits à la fois. Soit je suis proche du Seigneur, ou je suis proche du diable. C'est la vérité de la vie. Et lorsque je choisis de suivre Christ de loin, je choisis aussi de suivre le diable de près. Je dois faire un choix. Et la Bible nous dit que le bon choix, c'est de suivre Christ de près, jour après jour. Pas que le dimanche, mais de le suivre de près, jour après jour. Et là, c'est en comptant sur la grâce du Seigneur. Seule sa grâce peut nous aider, mes amis, à suivre Christ de près, tous les jours. Pierre suivait le Christ de loin, et il était assis au coin du feu. Un autre détail, mes amis, le coin du feu. Ah, il était bien, Pierre, il se réchauffait. C'est vrai, un bon petit feu de bois, là, ça... Qu'est-ce que ça fait du bien, un bon petit feu de bois. Mais là, c'est le feu du monde, mes amis. C'est le feu du monde, mes amis. Il était assis en compagnie des moqueurs. Il se réchauffait avec le feu du monde. Avec le feu du monde, mes amis. La Bible nous dit que la vraie joie se trouve en Jésus-Christ. Le monde ne peut pas nous donner une joie totale. La joie du feu, c'est une joie éphémère. C'est une joie que je pourrais dire trompeuse. Le feu du monde nous trompe, mes amis. Lorsque nous recherchons le feu de ce monde, nous sommes trompés, nous sommes déçus. Parce que la vraie joie se trouve en Jésus-Christ. La vraie joie se trouve dans celui qui a vaincu ce monde et qui nous donne la joie de son Père. Amen. Pierre se mêlait aux ennemis de son Seigneur dans le but de cacher son identité. Pierre avait honte d'être un disciple du Seigneur. Alors que le Christ devait subir l'épreuve suprême, alors qu'il attendait de la part de ses amis un soutien, de la prière, Pierre se défilait. Pierre a retourné sa veste, mes amis. Il a retourné sa veste. C'est vrai que lorsque le Christ prêchait la parole avec puissance, comme nul homme, lorsqu'il guérissait les malades, lorsqu'il chassait les démons, lorsqu'il ressuscitait les morts, Pierre était fier d'être disciple. Il était fier, certainement. Et qui ne le serait pas? Par contre, lorsque son maître, Jésus-Christ, affrontait ce jugement terrible, cette grande injustice, il avait honte d'être disciple. Il avait honte d'être reconnu qu'en faisant partie de ceux qui suivaient Jésus-Christ de près. Il avait honte. Il a retourné sa veste. Ne sommes-nous pas comme lui quelque part, mes amis? Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde d'être de ceux qui retournent la veste. Que Dieu nous garde d'avoir ce sentiment de refuser d'être ce que nous sommes vraiment. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons être fiers d'être enfants de Dieu. Quels que soient les événements qui doivent nous arriver. Mes amis, il est facile, lorsque tout va bien, de proclamer le nom de Jésus-Christ. C'est facile, mes amis. Je dis pas ça parce que c'est facile, mais c'est vrai, c'est facile. Lorsque tout va bien, de dire aux autres qui nous sommes. Mais la question est, lorsque l'épreuve arrive, quel est notre sentiment? Lorsque l'épreuve arrive, mes amis, quel est le fond de mon cœur? Est-ce que devant l'épreuve, je suis aussi prêt à affirmer avec autant d'ardeur que je suis disciple de Jésus-Christ de près, que je suis prêt à le suivre jusqu'au bout? Que Dieu nous donne cette grâce d'être ferme, y compris lorsque ça va mal. Parce que lorsque ça va mal, Dieu est au contrôle. Parce que lorsque ça va mal, Dieu l'a permis pour notre bien, pour que nous puissions toujours marcher fidèlement avec lui jusqu'au bout. Pour terminer, la question que j'aimerais nous poser, à quelle distance suis-je de Jésus-Christ? À quelle distance suis-je de Jésus-Christ? Est-ce que maintenant, là où je suis à ma place? Alors que Dieu nous aide à lui être fidèle et à marcher dans sa crainte, loin du feu de ce monde, mes amis, mais étant rempli du feu de Dieu, en ayant constamment à l'esprit l'œuvre du Christ, à la croix, mais aussi en nous, aujourd'hui, par son esprit. Amen.